RCF.
Dis pourquoi.
Et nous recevons aujourd'hui Mohamed Amara. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche à l'Institut des nanotechnologies de Lyon et vous menez des recherches en physique des modules photovoltaïques. Alors vous allez voltaïque. Oui, j'ai bien prononcé.
Exactement.
Vous allez nous en dire un peu plus dans un instant. Alors vous êtes venu nous expliquer aujourd'hui que l'on peut fabriquer de la glace dans le désert sans électricité. Vraiment?
Tout à fait, en fait, mais sous certaines conditions seulement. Alors, il faut savoir que les historiens nous ont appris qu'il y a plus de 400 ans avant notre ère, des ingénieurs perses ont pu mettre en place des systèmes qu'ils ont appelés les yakshals, grosso modo on appelle ça les fosses à glace, et qui fabriquaient, stockaient de la glace en fait pendant l'hiver et surtout dans le désert. Alors, ces systèmes s'appuyaient sur un phénomène, ou plutôt un concept qui s'appelle la réfrigération passive, finalement. Ça veut dire on va pas utiliser une source supplémentaire d'énergie, et plutôt la capacité qu'ont les objets naturellement à se refroidir par rayonnement.
Donc à perdre de la chaleur.
Exactement.
C'est ça. Concrètement, comment ça fonctionne? Est-ce que ça marche à tous les coups? Il suffit de vouloir faire ça pour que ça fonctionne.
Alors, pour répondre à cette question, je vais d'abord introduire deux notions très importantes. Mmh. La première, c'est que la lumière, en fait, c'est une onde. Donc une onde, c'est quoi? Pour le représenter, on peut imaginer les vagues dans l'océan. Et en fait, une vague, c'est quand on voit les vagues successives, la distance entre les crêtes et les creux, on appelle ça la longueur d'onde.
D'accord.
Alors ensuite, il faut savoir que tout corps rayonne de la lumière, y compris notre corps. Alors cette lumière, elle peut être visible ou non. Mmh. Et à température, on dit ambiante, on va dire moins 50, grosso modo entre moins 50 et 50 degrés, cette lumière, elle est principalement dans l'infrarouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur d'onde, donc la distance entre les crêtes, elle est micrométrique. Pour avoir une notion de cette échelle, on peut prendre une règle chez soi, prendre la plus petite graduation, donc le millimètre, et le diviser en 1000. Donc ça vous donne un petit peu cette grandeur. Et cette capacité, on appelle ça un rayonnement thermique ou un rayonnement du corps noir.
D'accord. Alors, c'est donc l'exploitation de ce rayonnement qui va nous permettre de refroidir l'eau et de la transformer en glace. Est-ce bien ça?
Exactement. Alors, si on peut aller un peu dans le détail, donc le corps va émettre du rayonnement. Maintenant, à l'extérieur, si on met à l'extérieur, notre corps va émettre du rayonnement. Mais il va aussi recevoir du rayonnement de l'atmosphère. Mmh. Et notre atmosphère a une caractéristique, c'est que le rayonnement infrarouge en question va pouvoir sortir à l'extérieur. Il n'est pas bloqué. Donc, c'est comme si on ouvrait en fait un réfrigérateur avec une température qui est celle de l'espace. Donc, beaucoup plus faible en fait que la température ambiante. Donc, c'est ça qui permet à la glace de se refroidir et de former la glace. En fait.
De l'eau.
De l'eau.
L'eau se refroidit et devient de la glace grâce à une sorte de mouvement de va-et-vient. Je ne sais pas, moi j'ai compris quelque chose comme ça.
Alors, c'est des échanges en fait. Oui. C'est un échange direct. Alors, ce n'est pas tout à fait va-et-vient, mais c'est un échange. On envoie de la chaleur, on reçoit de la chaleur, sauf que ce qu'on reçoit est très très faible parce que c'est la température de l'espace.
D'accord. Et ça ne fonctionne qu'avec l'eau, ce que vous venez de nous expliquer?
Alors non, pas tout à fait. En fait, on peut le trouver dans la nature. Si je prends des exemples qui viennent à l'esprit, il y a une variété de fourmis dans le désert où on a pu observer cette capacité en fait, à utiliser ce phénomène pour se refroidir. Le deuxième exemple que plus ou moins on a tous vu, c'est que par des matins d'hiver où la température ambiante n'est pas au-dessus de l'ambiant, zéro plutôt, et on voit la vitre en fait des pare-brise qui est gelée. Mmh. Donc c'est ce phénomène-là qui permet au pare-brise de givrer alors qu'à l'extérieur il n'est pas aussi froid.
D'accord, j'imagine que ce principe de refroidissement radiatif, c'est ainsi qu'il faut l'appeler, ouvre de nombreuses perspectives pour les chercheurs comme vous.
Exactement. Alors, un petit peu si on regarde en pratique, on commence à l'utiliser ou plutôt à prospecter pour l'utiliser aussi bien dans le bâtiment, pour nos vêtements par exemple, et voire même pour les grandes surfaces, pour les systèmes de réfrigération des grandes surfaces, on va essayer d'utiliser ce phénomène-là. Mmh. Alors, il faut savoir que la France était pionnière dans la recherche et le développement de ce sujet-là. Au travers des travaux de Félix Trombe dans les années 60, donc à Montluy, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et il faut savoir qu'avec son équipe, dans les années 60, ils ont fabriqué un système ingénieux qui leur a permis de baisser la température d'un objet à moins 30 degrés au-dessous de la température ambiante. Donc ce record, en fait, il a été gardé pendant beaucoup d'années. Il a été battu que récemment par une équipe américaine. Ils sont descendus à moins de 47 degrés au-dessous de l'ambiance.
Bon, j'imagine que l'idée, ce n'est pas de figurer dans le Guinness Book des records, mais bien de pouvoir appliquer ces éléments à vos recherches, par exemple.
Alors, l'autre record, ce n'est pas notre objectif pour le moment. Nous, on travaille sur les panneaux solaires. Alors, l'idée étant de pouvoir augmenter leur production électrique annuelle, hein, en tant que source d'énergie renouvelable. Mais il se trouve que, comme tout objet semi-conducteur, hein, comme nos téléphones portables, dès que leur température augmente, ils perdent de l'efficacité, donc du rendement. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller exalter cet effet-là. Alors il faut savoir que les outils, ou enfin, les objets qui sont utilisés actuellement ne sont pas optimisés.
Faire en sorte que les objets puissent se refroidir le plus facilement possible par eux-mêmes, c'est ça ?
Exactement. Mmh. Et en fait, le verre qui est utilisé pour protéger les panneaux n'est pas optimisé pour ça. Donc notre rôle, d'aller travailler sur le relief de ce verre-là, de ces surfaces-là, d'aller travailler sur la topologie par... on va sculpter un petit peu la matière à l'échelle micrométrique, voire plus bas, qui va permettre de pouvoir gagner encore des degrés en température. Donc, on estime pouvoir gagner entre 5 à 10 degrés de température. Et quelque part, à la fin, si on va calculer la production annuelle d'électricité, on va gagner un point ou deux sur le rendement.
Bon, ce sont des perspectives très prometteuses qui vont dans le sens d'une énergie plus verte aussi. Merci Mohamed Amara. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche au CNRS, et plus précisément à l'Institut des nanotechnologies de Lyon. Et ce rendez-vous dit pourquoi a été réalisé en collaboration avec l'École centrale de Lyon. À bientôt, bonne recherche à vous.
Merci.
Voilà quelques notes de Zaz pour poursuivre cette matinée M comme midi sur RCF Lyon.